Voilà, bonjour à tous. Quoique je mette mes lunettes, ça fait tout de suite plus sérieux. Alors, Romains 13, on reprend Romains 13 ce matin, à partir du verset 1. On avait déjà vu les sept premiers versets sur la soumission aux autorités, mais l'idée c'est que, en y réfléchissant après coup, je me suis rendu compte que peut-être certaines choses qui ont été dites sont incomplètes ou pourraient être mal interprétées. Donc, on va revenir sur cette question de Romains 13, verset 1 à 7. On relit: que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien, et tu auras son approbation. Car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Alors, quand il s'agit ici du bien et du mal, il ne s'agit pas du bien et du mal tel que l'autorité le définit, mais le bien et le mal devant Dieu, on est bien d'accord. Puisqu'il dit ici, elle est au service de Dieu pour ton bien, d'accord? Et puis, ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Donc on est bien d'accord qu'il s'agit du bien et du mal devant Dieu, ok? Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement à cause de cette colère, parce qu'évidemment, ça c'est la crainte du gendarme, hein, c'est bien connu, mais encore par motif de conscience. Quand il dit motif de conscience, il pense au bien et au mal devant Dieu. Vous êtes d'accord? C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Et là, il y a une application aux impôts, car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise: rendez à chacun ce qui lui est dû, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc, quand on a parlé la semaine dernière de la soumission aux autorités, si vous voulez, la première chose qu'il faut, enfin qu'on a dite et que je répète, c'est que toute attitude de rébellion du style, ouais, mais de toute façon, ces impôts, ils sont injustes, l'État, il s'en met plein la poche, moi aussi, je peux m'en mettre un petit peu dans la poche. Ce genre d'attitude-là n'est pas conforme aux Écritures. OK? Ça, c'est. Donc, clairement, Paul nous dit, soyez soumis aux autorités. Et arrêtez de discuter sur la justice des impôts ou l'injustice des impôts. Il n'y a pas de gouvernement qui soit parfait dans ce domaine-là. Le fait, si vous voulez, je dirais comme ça, en ce qui concerne nos intérêts personnels, c'est pas ça qui doit primer sur les autorités. Quand il s'agit de nos intérêts personnels, on est soumis. Et Dieu, lui, qui est souverain, au final, on devra tous passer en jugement les projets de Dieu durent de génération en génération. Donc on n'est jamais perdant en ce qui concerne nos intérêts personnels, même si on a l'impression d'y perdre, on n'est jamais perdant d'être soumis aux autorités. Parce que finalement, on s'y retrouve. Vous comprenez? On est perdant quand on se rebelle. On est perdant quand on veut essayer de gagner de l'argent sur le dos des autorités. Toujours. Au final. On doit être content de pouvoir payer des impôts. C'est-à-dire qu'on gagne de l'argent. Mais, même s'ils nous paraissent injustes. Mais ça, c'est par rapport à nos intérêts personnels. Maintenant, il y a d'autres cas qui sont plus difficiles. Par exemple, et on n'a pas parlé la semaine dernière, c'est pour ça que je reviens là-dessus. Quand vous pensez au nazisme durant la Deuxième Guerre mondiale, ou au gouvernement de Vichy, où il fallait dénoncer les juifs et les livrer aux autorités, c'est ceux qui ont caché les juifs, ce sont donc étaient donc, on pourrait dire, simplement en termes de soumission aux autorités, ils n'ont pas obéi aux autorités. D'accord? Mais qu'est-ce que dit Paul ici? Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien. Et un peu plus loin, verset 3, fais le bien et tu auras son approbation. En fait, on fait le bien, d'accord, parce que ce bien-là, on le fait devant Dieu, et Dieu, c'est lui qui a institué les autorités. Donc si les autorités elles-mêmes, pour une raison ou une autre, dans un domaine précis, nous demandent de faire le mal, là, à ce moment-là, on est dans la désobéissance civile volontaire, ok, mais sans arrogance. Pourquoi sans arrogance? Parce que ce serait inutile de braquer les autorités. Parce que celui qui est dans une position d'autorité, en général, il se croit dans son bon droit. Oui, je veux dire. Mais ce qui arrive aussi parfois, c'est que se croyant dans son bon droit, s'il voit en vous une attitude de respect, au sens général du terme, mais que néanmoins vous faites le bien contrairement à ce qu'il vous a demandé, vous allez forcer son respect, très souvent. Parce que tout à coup, sa conscience à lui va parler, et il va réaliser que les ordres qu'il est censé faire appliquer sont des mauvais ordres, parce qu'il vous voit vous faire le bien. Vous suivez ce que je veux dire? Donc il arrive parfois, pas toujours, que le fait de faire le bien devant Dieu, contrairement à ce que vous demande l'autorité, tout en gardant ce respect général pour l'autorité, ça peut forcer le respect de l'autorité vis-à-vis de vous et faire que cette personne qui est en position d'autorité laisse passer. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut arriver que ça vous coûte la vie, ou ça vous coûte la prison, ou ça vous coûte des coups de fouet comme à Pierre quand il a dit qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais néanmoins, à cause de la conscience, vous avez fait ce qui est bien. Vous suivez? Pourquoi je vous dis de ne pas braquer les autorités? On a un exemple dans Daniel, chapitre, je crois que c'est chapitre 2, on va voir. Oui, peut-être chapitre 2, oui. Ou 3, on va voir. Le livre de Daniel. Donc, on se rappelle de ce principe, fais le bien et tu auras son approbation. Okay. Si ce n'est pas l'approbation tout de suite, de toute façon, tu auras l'approbation de Dieu qui a institué les autorités. Mais étonnamment, certaines autorités sont elles-mêmes remises en question par le fait que vous faites le bien. Et qu'en faisant le bien, vous ne cherchez pas vos propres intérêts. Et vous mettez même votre vie en jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça parle. Alors, Daniel, chapitre 2, verset 24. C'est Daniel 2, 24. Regardez l'attitude de Daniel par rapport aux autorités. Je donne le contexte. Les sages de Babylone, dont font partie Daniel et ses trois amis, vont être mis à mort par le chef des gardes Arioch, sur l'ordre de Nebuchadnezzar, parce que les Chaldéens, les devins et compagnie n'ont pas réussi à expliquer, n'ont pas réussi à deviner quel rêve a fait le roi Nebuchadnezzar, et ils sont bien en peine de le faire, parce que si vous avez fait un rêve ce matin et que vous me dites, Jean-Hugues, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que j'ai rêvé, je m'en souviens plus, j'aurais de la peine à vous le dire, vous voyez, à moins que Dieu me le montre. Et même les devins, les Chaldéens, avec tout leur pouvoir occulte, ils n'y arrivaient pas. Et donc, ils disent au roi de Babylone, mais dis-nous ton rêve. Après, nous, l'interprétation, c'est pas difficile. Là, on peut t'en faire plein, des interprétations. Mais de pouvoir trouver le rêve comme ça par divination et que tu puisses dire, ah oui, effectivement, c'est bien de ça que j'ai rêvé, ça, on ne sait pas faire. Oui. Donc, le roi se met dans une colère noire parce qu'il sent qu'il cherche à gagner du temps et il dit, on va tous vous tuer. Or, il se trouve que Daniel et ses amis font partie du lot. Donc, ils vont se faire tuer eux aussi. Vous voyez? Maintenant, Daniel aurait pu. D'abord, c'est parfaitement injuste, parce que Daniel et ses amis n'ont même pas été consultés dans l'histoire, c'est pas eux qui étaient là quand le roi a posé la question. Ok? Ils n'étaient même pas au courant de ce qui se passait, mais comme ils font partie des sages de Babylone et que l'ordre du roi est général, ils se font ramasser avec les autres. Donc c'est parfaitement injuste, vous êtes d'accord? Nebuchadnezzar est une autorité. Arioch, le chef de garde, est une autorité soumise à l'autorité de Nebuchadnezzar. Et le principe biblique, c'est qu'on est soumis aux autorités. Donc, maintenant, humainement parlant, Daniel aurait pu pousser des cris en disant, mais c'est parfaitement injuste, et dire à Arioch, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, et faire tout un pataquès, comme on dit dans le sud de la France, et qu'est-ce qu'il aurait récolté? Ben, de mourir avec les autres. Parce que le chef des gardes, il est sous la pression de Nebuchadnezzar, il va pas baisser la garde, c'est le cas de le dire, à cause d'un sous-fifre qui se met en colère. Il a l'autorité, il fait ce qu'il lui est demandé de faire, sinon c'est lui qui perd sa vie. Vous comprenez? Donc Daniel est intelligent. Regardez comment il fait. Verset 24. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arioc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. « Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. » Alors, vous voyez que il a une bonne relation avec Arioc et Arioc l'écoute. Pourquoi est-ce qu'il a une bonne relation avec Arioc? On remonte un peu plus haut dans le chapitre 2. Au verset 12. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment et l'ordonna de faire périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages allaient être mis à mort et l'on chercha Daniel et ses compagnons pour les faire mettre à mort. Bonjour. Verset 14. Alors Daniel s'adressa, écoutez bien, c'est cette expression que je voulais souligner, d'une manière prudente et sensée à Arioc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioc, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arioc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi directement et le pria de lui accorder un délai pour donner au roi l'explication. Vous voyez ? Et là, il va prier. Le roi lui accorde un délai. Pendant ce délai, il prie avec ses amis. Le résultat, c'est qu'il reçoit l'explication du rêve. Le rêve et son explication. C'était un vrai miracle. Et là, il retourne vers Arioc. Il dit, c'est bon, épargne les sages de Babylone. J'ai l'explication, je vais la donner. Vous suivez ? Donc, Daniel fait face à une autorité qui est parfaitement injuste. La colère du roi, elle est disproportionnée. En plus, demander à ses serviteurs de lui dire le rêve qu'il a fait alors qu'il a oublié son rêve, c'est quand même demander quelque chose d'impossible, vous voyez ? Donc, tu n'as pas pu faire quelque chose que je t'ai demandé qui est impossible, donc je vais te tuer. Vous voyez que c'est franchement, c'est pas la clémence. Hein ? C'est injuste, cette attitude de Nebuchadnezzar, si on peut dire. Ça va ? Bienvenue. Donc, Daniel, au lieu de se rebeller, au lieu de crier à l'injustice, il est dit qu'il s'adresse d'une manière prudente et sensée à Arioc, chef des gardes du roi, d'accord ? Et il lui pose la question, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ? Attendez, la sentence le concerne lui, il va mourir. Et il a le calme et la sagesse de parler à Arioc comme s'il parlait pour une question de pourquoi la recette de cuisine t'as mis trop de poivre, vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'il est, Daniel est intelligent. Il ne monte pas en pression, il se maîtrise lui-même, il a la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit, et il parle de manière sensée et sage à Arioc, le chef des gardes. Vous suivez ? Ça, c'est une leçon à comprendre, à apprendre. On a un exemple dans l'histoire de l'Église. Et ensuite, il va directement vers le roi, s'étant d'abord adressé à Arioc. Donc, vous savez, n'allez pas tout de suite vers l'autorité au-dessus de votre chef sans avoir d'abord parlé à votre chef. Parce que si le chef apprend que vous avez parlé au grand chef sans lui parler à lui d'abord, il va en concevoir de la haine et de la colère. Vous avez plein de sagesse dans ce chapitre 2 de Daniel. Relisez-le attentivement. Vous verrez comment agir vis-à-vis de l'autorité. Vous parlez d'abord à votre chef qui est en train d'exécuter quelque chose qui vous paraît injuste. Vous lui posez la question, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi un petit peu. Il vous explique qu'est-ce qui se passe. Vous dites, ok, ne bouge pas. Vous allez voir l'autorité qui est au-dessus, puisque vous vous rendez compte que la personne ne fait que exécuter un ordre qu'elle a reçu d'en haut. Donc vous allez en haut. Et là, vous demandez un délai pour ce qui concerne l'histoire de Daniel. Ok ? Vous ne dites pas, mais c'est injuste. On n'y est pour rien. Non, 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 non. Tu veux l'explication ? Vous voyez, quelque part, il se soumet au diktat de Nebuchadnezzar. Tu veux quelque chose d'impossible ? Pas de problème. On va s'en occuper. Donne-moi juste un délai. Ensuite, il va prier. Il dit, Seigneur, toi, tu es encore au-dessus de Nebuchadnezzar. C'est toi qui as institué les autorités. Donc, tu nous demandes quelque chose d'impossible, mais tu es le Dieu de l'impossible. Alors, fais l'impossible. Vous comprenez ? Et Dieu lui donne l'impossible. Il lui donne le rêve. C'est intéressant, hein ? De voir comment on fonctionne avec les autorités, vous voyez ? Et donc, ne braquez pas les autorités, c'est la première règle. Ne les braquez pas inutilement. Ça ne sert à rien, ça ne va rien changer, ça ne va qu'empirer la situation. On a un exemple dans l'histoire de l'Église avec François Ier, et je crois que c'était des Neuchâtelois, des protestants, qui venaient de Suisse, qui étaient à Paris. Je vois qu'il y a quelqu'un de Neuchâtel donc, qui était impliqué dans l'histoire. Les Neuchâtelois sont assez rebelles. Mais, si vous voulez, on était à une époque où François Ier était quand même très ouvert à la Renaissance. Il avait protégé Robert Estienne, qui était l'imprimeur du roi et qui pourtant imprimait les textes du Nouveau Testament directement d'après le grec et donc faisait honte aux sorbonnistes qui, eux, défendaient la Vulgate, qui était un petit peu la traduction en latin de Saint Jérôme qui avait subi comment dire, certaines modifications au cours des siècles, parce que l'Église catholique, elle tenait tout le monde dans une sorte d'ignorance de ce que dit vraiment le texte biblique dans certains domaines. Et donc, le roi François Ier n'était pas protestant, il était catholique. Mais néanmoins, il était ouvert à tous ces courants de renaissance, de réforme qui étaient dans l'air. Vous suivez ce que je veux dire? Vous voyez? Et donc, voilà qu'il y a certains protestants qui n'ont rien trouvé de plus pressé que de faire ce qu'on appelait l'affaire des placards, donc des affiches qu'ils ont mis un peu partout, jusque sur la porte de la chambre du roi, pour dénoncer la messe en disant que c'était de l'idolâtrie, que le pain et le vin étaient offerts à des démons, je ne sais pas trop quoi. Enfin, vous voyez, évidemment que les protestants dénonçaient le dogme de la transsubstantiation, mais, et donc c'était quelque chose de faux chez les catholiques, mais vous voyez, là, il n'y avait rien de tel pour braquer les autorités. Qu'est-ce qui s'est passé? François Ier s'est mis dans une grande colère. Lui qui était ouvert au départ, qui aurait pu être ouvert aux protestants, il s'est complètement refermé. Il a pris complètement le parti des catholiques, et à partir de là, il y a eu des massacres. Les protestants se sont fait tuer. Tout ça à cause de l'imprudence de protestants qui ont braqué les autorités au lieu de faire comme Daniel qui s'était adressé de manière prudente et sensée. La manière prudente et sensée, c'était de faire comme Calvin a fait quand il a écrit l'institution chrétienne. Il a écrit une lettre au roi. On ne sait pas si le roi l'a lue, mais si vous regardez aujourd'hui l'institution chrétienne, qui est encore un document, si vous voulez, qui est tout à fait disponible en français, qui a été traduit, mais enfin, il avait du reste été écrit en ancien français et en latin, à l'époque de Calvin. Mais la préface, c'est une lettre au roi de France. Et vous regardez la manière dont Calvin s'adresse aux autorités, c'est plein d'égards, c'est plein de respect, tout en disant la vérité. Vous voyez? Et quand vous regardez la manière dont Luther s'est adressé au pape, qui était son autorité, c'est de nouveau plein de respect au départ, et il dit, je ne peux pas croire que ce soit vous, en tant que pape, vous êtes éclairé, vous connaissez la parole de Dieu, donc je suis certain que la vente des indulgences en Allemagne, c'est le fait de certains de vos subordonnés qui n'ont rien compris à rien, mais vous, en tant que pape, bien sûr, vous avez bien compris les Écritures, et donc je m'adresse à vous en vous disant, ça me choque, est-ce qu'on ne pourrait pas quand même mettre un peu d'ordre dans tout ça? Vous voyez, il s'adresse avec le maximum de prudence, de sagesse, pour essayer d'incliner les autorités en faveur de la réforme. Au départ, les réformés ne voulaient pas créer une église réformée. Ce qu'ils voulaient, c'était que toute l'église catholique soit réformée. Vous suivez? Mais à un moment donné, en tout cas pour ce qui est de la France, bon, au niveau de l'Allemagne, c'est encore une autre chose, mais si vous étudiez l'histoire de la réforme, bon, l'Allemagne, c'est différent parce qu'il y a des princes allemands qui ont pris le parti de la réforme. Donc là, c'est différent. En France, les autorités, globalement, se sont braqués. Et une des choses qui les ont braqués, c'est l'affaire des placards, qui était un manque de sagesse. L'affaire des placards, c'est les gens qui ont mis ces affiches jusqu'à la chambre du roi pour dénoncer la messe. Vous voyez? Maintenant, il y a eu aussi le parti, la branche dure des catholiques qui ont mis de l'eau dans le moulin parce qu'ils ne voulaient pas que les réformés, comment dire, gagnent la partie en France. Donc ils ont aussi influencé les rois de France, notamment Louis XIV etc. Mais donc eux aussi, ils sont coupables de ce qu'ils ont fait. Mais on va pas refaire l'histoire, on va pas discuter l'histoire maintenant. Mais c'est pour vous dire que de manière générale, avec l'autorité, ne braquez pas l'autorité. Vous voyez? Ça ne sert à rien. Même si l'autorité a tort, gardez le respect, gardez les formules qu'il faut garder. Il y a même un texte dans Jude qui dit par rapport au diable que l'archange Michel, quand il s'est adressé au diable, il ne l'a pas injurié. Pourquoi? Parce que même ces autorités mauvaises, elles ont une forme de gloire, de poids, vous voyez, dans le monde spirituel. Donc on ne s'adresse pas à elles de manière injurieuse. Ok? Ça va loin. Vous voyez? On n'est pas soumis au diable, évidemment. On est soumis à Jésus-Christ. Mais quand on s'adresse à une armée ennemie, Si vous prenez, par exemple, sur le plan plus humain, sans rentrer dans le monde spirituel, si vous vous adressez à l'armée ennemie, on ne s'adresse pas avec des injures, etc. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce qu'on les braque inutilement. Et vous voyez, on a toujours, ça représente une autorité, ça représente une puissance, ça représente une force, donc on s'adresse avec prudence. Ok? On va les combattre, mais on s'adresse avec eux avec prudence. Vous suivez là? Ça, c'est la sagesse. Bon, maintenant. L'autre chose par rapport aux autorités, donc la première chose c'est qu'on ne les braque pas, mais la deuxième chose qu'on a dite, fais le bien, voyez, et le bien et le mal entier par là, c'est devant Dieu, et donc même si des fois ça correspond à ce qu'on appelle une désobéissance civile, on va avoir une désobéissance civile, pourquoi? Parce que là il s'agit de notre conscience, et Paul parle de la conscience, voyez. Ceci dit, une autre question qui n'est pas vraiment soulevée ici, mais qu'on pourrait soulever, c'est la question, est-ce qu'on a le droit de prendre les armes pour nous défendre contre la persécution? C'est une question qui s'est posée plusieurs fois au cours de l'histoire de l'Église. Et la réponse, a priori, c'est que la voie la meilleure, c'est de ne pas prendre les armes. C'est de ne pas prendre. Mais on ne peut pas juger ceux qui l'ont fait, parce qu'ils avaient leur propre famille qui était massacrée, etc. On ne peut pas juger ceux qui l'ont fait, mais globalement, au bout du compte, ils n'ont pas été gagnants. Vous voyez? Maintenant, ceux qui ne l'ont pas fait, ils ont choisi la voie par excellence, puisque Paul dit dans Romains 8, on est comme des agneaux qu'on mène à la boucherie tous les jours. Vous voyez, on est dans un contexte de persécution. Mais prendre les armes, donc je veux dire, ne pas prendre les armes, c'est facile à dire quand on est en temps de paix, quand tout va bien. Quand on est face au choix, moi je laisse à chacun la. Vous voyez, je veux dire, c'est une question de conscience et de savoir ce que vous voulez faire. Ok? Donc, Paul parle de conscience ici, c'est intéressant parce qu'on va y revenir au chapitre 14. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou c'est clair pour les autorités? Ça va? C'est bon? Oui, l'autre chose que je voulais dire, ne braquez pas les autorités et d'un autre côté, il ne s'agit pas non plus de faire ce qu'on appelle vulgairement du lèche-botte. Vous voyez? Pour essayer d'obtenir. Non. Le même Daniel qui s'adresse de manière prudente et sensée à Arioc, le même Daniel plus tard à Belshazzar, quand Belshazzar lui offre des cadeaux et des présents, il dit garde tes cadeaux, garde tes présents. J'en veux pas. Vous voyez? Et il lui dit ces quatre vérités. Il les dit avec respect, mais il refuse les cadeaux. Vous voyez? Parce qu'il ne veut pas se compromettre avec un homme aussi corrompu que l'était Belshazzar, le descendant de Nebuchadnezzar. Et il lui annonce que le soir même, il va mourir. Et effectivement, il va mourir. Pas Daniel. Le roi en question va mourir. Vous voyez? Donc, si vous voulez, c'est tout à coup Daniel qui a l'autorité, là, quelque part. Vous comprenez? Mais Belshazzar, quand il a l'autorité au sens de l'influence. Mais Belshazzar a la position d'autorité. Donc, Daniel reste toujours prudent. Simplement qu'il il va pas, il n'a pas peur de Belshazzar. Vous voyez? Et il va pas accepter ses cadeaux. Dans un certain moment, il faut savoir refuser les cadeaux des autorités. Les légions d'honneur, par exemple. Ou ce genre de choses. Il vaut mieux les refuser quand on sait que cette autorité-là est compromise. Nos autorités sont loin d'être claires. Oui, je veux dire, l'avortement, les lois sur le mariage homosexuel, toutes ces choses-là, c'est des choses qui c'est des péchés qui s'accumulent jusqu'au ciel et pour lesquels on va être jugé au niveau de la nation. Donc nos autorités sont loin d'être claires. Mais on a l'exemple de Daniel, qui fait face à une autorité complètement païenne, complètement loin de Dieu. Voyez, et qui arrive néanmoins à la respecter, tout en lui annonçant la vérité, tout en risquant sa vie. C'est assez extraordinaire. Hein. L'exemple de Daniel est assez extraordinaire, je trouve, par rapport à Romains 13, versets 1 à 7. Verset 8 ensuite. Ne devez rien à personne, on est dans Romains 13, verset 8, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la loi, si vous voulez, Paul parle ici de ce qu'on appelle la règle d'or, c'est-à-dire ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Hein? Ou bien fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Et effectivement, si vous appliquez cette règle, si vous comparez chaque commandement avec la règle d'or, tu n'aimerais pas que quelqu'un prenne ta femme ou prenne ton mari. Ok? Donc tu ne vas pas le faire aux autres. Etc. etc. Tu n'aimerais pas que quelqu'un tue ton fils ou ta mère. Donc tu ne vas pas le faire aux autres. Vous voyez, c'est la base. Donc ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres, mais aimer, il faut le qualifier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez, la mesure qui nous montre ce qu'on veut dire par aimer, c'est que pour nous-mêmes, il y a des choses qu'on ne tolère pas, qu'on ne supporte pas, qui nous font mal et qu'on ne veut pas. Vous voyez? Il y a des choses qui nous semblent. Vous voyez, comment dire? Quand vous entrez dans un endroit où il y a des gens qui ne vous connaissent pas, vous appréciez beaucoup qu'on vous dise bonjour, qu'on vous respecte, qu'on vous montre des égards. D'accord? Si maintenant personne ne vous regarde, personne ne vous considère et que vous êtes traité comme un paillasson, ça vous fait mal. Ok? Alors pourquoi est-ce qu'on le fait des fois aux autres? Vous savez? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens, comme disent les jeunes aujourd'hui, on les calcule, tu l'as pas calculé. Tu m'as même pas calculé. Vous voyez? Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est ça. Ne serait-ce qu'avec notre regard, on peut déjà pécher. Hein? L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Okay? D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, il nous vient de nous parler des commandements et du fait que celui qui aime son prochain accomplit tous les commandements. Et ensuite, il nous donne une sorte d'incitation à obéir aux commandements de Dieu et à rester pur. Parce qu'il dit, vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, la nuit est avancée, le jour approche. C'est-à-dire, il parle du retour du Seigneur. Et lorsque le Seigneur va revenir, on devra lui rendre compte de toutes nos œuvres, de tous nos actes, de toutes nos pensées, nos actes secrets, nos paroles, tout va être mis à jour. Ok? Donc, c'est le moment maintenant de se réveiller. Alors, si c'était vrai à l'époque de Paul, qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui? Vous suivez? C'est le moment de se réveiller enfin du sommeil. Vous voyez? De quel sommeil il parle? On peut regarder ça dans Luc, l'évangile de Luc. Je crois que c'est le chapitre 17, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Verset 28, Luc 17, 28, il en sera comme au temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Vous voyez? Ou bien, verset 26, ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et il fit tous périr. Donc, ça veut dire, Le sommeil dont il est question, c'est pas un sommeil physique, on dort tous la nuit, etc. Enfin, j'espère que vous dormez un peu quelques heures quand même chaque nuit. Mais c'est le sommeil de. En fait, il n'est pas dit ici, ils se tuaient les uns les autres, ils se massacraient les uns les autres. Non. Ils mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Des choses tout à fait normales. OK? Ils avaient une vie normale. Et dans cette vie normale, ils dormaient. Ils dormaient. Dans quel sens? Ils ne se préparent pas au retour du Seigneur. Ils ne se sanctifient pas. Ils ne cherchent pas Dieu. Vous voyez, le péché, ce n'est pas toujours ce qu'on pense. Bien sûr que tuer, voler, mentir, c'est péché. D'accord? Et commettre l'adultère, c'est péché. Tout ça, bien sûr. Mais le fait de jouir, de vivre dans la bénédiction de Dieu, sans prier, sans se préoccuper de Dieu, sans se soucier du pauvre, c'est un péché. Et c'est un péché qui est presque plus grave que celui qui prend un poignard et qui. Vous voyez, parce que vous avez des gens qui sont. Soit qui ont. Comment dire. Il y a les neurones qui ont trop chauffé, soit ils sont eux-mêmes écorchés vifs, soit ils ont. Vous savez, ils sont nés dans la guerre, ils ont. Voilà. Mais. Il y a des barrières qui sont tombées intérieurement, donc ils font n'importe quoi. Mais vous avez des gens qui ont une vie normale, qui est une vie qui est bénie au sens je mange 3 fois par jour, ce qui est déjà énorme par rapport à beaucoup de gens sur la Terre qui mangent tout juste 1 fois par jour, des fois 1 fois par semaine, ou 1 fois tous les 3 jours. Mais je mange 3 fois par jour, je m'assois dans ma télévision, je pense, je dépense de l'argent pour marier mes enfants. Pour etc., etc. Je vis dans ce monde, ok, et je me pré mais, et si tout en faisant ça, je ne me préoccupe pas de Dieu, je ne suis pas dans la prière, je ne cherche pas la sanctification, je ne me préoccupe pas du pauvre, alors j'aurai des comptes à rendre à Dieu. Et pourtant, humainement parlant, on pourrait dire, mais j'ai jamais fait mal à une mouche. Vous suivez? Il est temps de vous réveiller enfin du sommeil. Regardez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 29. 1 Corinthiens 7, 29. Voici ce que je dis, frère. Le temps est court. Vous voyez, il dit, la nuit est avancée, le jour approche dans Romains 13, et ici il le dit sous une autre forme en disant, le temps est court. Encore une fois, si c'était vrai à l'époque de Paul, qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui? Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas. Et ceux qui usent du monde comme s'ils n'en usaient réellement pas, car la figure de ce monde passe. Oui. Pourquoi est-ce que Paul dit ça? Ça veut dire que, bien sûr, il faut faire des choses. Vous allez faire vos courses. Oui, c'est pas parce qu'à partir de ce matin, si vous dites à partir de ce matin, ah, ça y est, je jette mon porte-monnaie, je jette ma carte de crédit dans le caniveau, je sors plus de chez moi, j'achète plus rien. Non, il faut. Vous allez quand même acheter, vous allez quand même manger tout à l'heure, ok? Mais il dit ici, comme ne possédant pas. Si vous achetez, prenons cet exemple, achetez comme ne possédant pas. C'est-à-dire que c'est pas les achats compulsifs en disant j'en veux plus, mais j'achète parce que j'ai besoin de ces choses. Mais au départ, je suis au service de Dieu. Je suis mort à ce monde. Le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde, dit Paul. Voyez? C'était un serviteur de Dieu de Jordanie qui travaille dans le monde musulman et qui nous disait qu'il y avait eu un interview d'un terroriste qui a été arrêté juste avant qu'il se fasse exploser avec sa ceinture d'explosifs. Et donc après, il est entre guillemets revenu à lui et il était de nouveau sain d'esprit quand il a été interviewé. Et il disait, vous savez, Quand vous vous promenez dans la foule avec votre ceinture d'explosifs, vous êtes comme tout le monde. Il y a les magasins qui sont ouverts, il y a les... et vous venez de... Vous avez mangé quelques heures avant, vous avez une vie comme tout le monde. Et en même temps, vous n'êtes pas comme tout le monde. Ce monde que vous voyez pour vous n'existe plus. Tout... Vous savez que vous allez mourir. Vous avez fait une croix dessus, largement. Oui, vous savez ce que je veux dire. Mais ça, c'est pour le terrorisme. Donc c'est pour une cause qui est catastrophique, qui est pas juste catastrophique, mais qui est contraire à Dieu, qui vous amène en enfer. Vous suivez? Alors nous qui n'avons pas de ceinture d'explosifs et qui sommes au service de l'amour et non pas de la haine, ok? À combien plus forte raison on devrait pouvoir mettre en pratique ce que dit Paul ici? Vous usez du monde, mais comme n'en usant pas. Vous voyez? Vous êtes dans ce monde, oui, il y a toutes ces choses, mais vous vous concentrez sur la préparation du retour. L'épouse se prépare, vous vous purifiez vous-même comme lui-même est pur, parce que vous avez cette espérance de son retour. Que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui se souille encore. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a un choix. On est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Et on se prépare pour le retour du Seigneur. Vous suivez? Et donc, je reviens dans Romains 13 maintenant. Il est temps donc de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que de ce que nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et Paul va nous expliquer à quoi il pense ici par œuvre de ténèbres. OK? Il explique. Verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour. Alors déjà, la première chose, c'est que tout ce qui est dans le domaine de la dissimulation, vous savez, je vous prends un exemple tout simple. Vous êtes à la salle à manger. Bon, maintenant, je sais qu'on a des cuisines, comme on dit, américaines, où il n'y a pas de séparation de la cuisine et la salle à manger. Mais qui n'a jamais vécu ça quand la cuisine est séparée? Vous êtes à la salle à manger, vous desservez la table, vous arrivez, vous êtes seul à la cuisine, vous prenez dans le plat ce que vous n'avez pas mangé devant tout le monde, et vous vous empiffrez de soit du fromage que vous aimez bien, le morceau de roquefort qui reste, etc. Pourquoi est-ce qu'on fait ces choses quand personne nous voit? Comme si Dieu ne nous voyait pas, déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Moi-même, j'ai fait. Vous voyez, Mais je vous prends un exemple qui est tout simple. On a tous fait ça, on a tous. C'est comme quand on éteint les lumières, il reste un morceau de gâteau sur la table, quand on rallume les lumières, il n'y a plus de gâteau. Oui, c'est un peu une blague, mais je veux dire, c'est pour dire. Vous comprenez? Donc, on a tendance. Plutôt, je vais dire ça dans l'autre sens. Ce que vous faites dans les ténèbres, c'est que vous n'avez pas une très bonne conscience. OK? Ce que vous pouvez faire devant tout le monde, c'est que vous avez bonne conscience. C'est clair. C'est pour ça que Paul dit, marchons honnêtement comme en plein jour. Amen. Sans excès de table. Tiens, ben justement, ça fait partie des choses. Moi, ça m'a toujours étonné dans le Nouveau Testament. Que Jésus parle des excès de table par rapport à la fin des temps, Paul parle des excès de table par rapport à la fin des temps, Ézéchiel 16 dénonce Sodome et Gomorre. Vous savez quel est le péché de Sodome et Gomorre? C'est l'abondance de pain et ne pas se soucier du pauvre. C'est ça que Dieu reproche à Sodome. Étonnant, hein? L'abondance de pain et ne pas se soucier du pauvre. Vous voulez voir où c'est marqué? Vous ne me croyez pas, je suis sûr. Non, mais je ne sais plus où c'est dans Ézéchiel quelque part. Si je tombe dessus, je vous le lis. Pardon? Bon, vous cherchez dans une coco.
Elle dit c'est une orgie de table.
Une orgie de table, oui.
Ben oui.
Bon, enfin, il est parlé de ça dans Ézéchiel. J'ai pas le texte, j'avais pas le texte en tête, donc j'ai pas cherché. Mais on va, si je le retrouve à la pause, je vous le dirai tout à l'heure. Bon. Alors, pourquoi les excès de table? Pourquoi est-ce que, et puis de vin aussi, ou de boisson au sens de boisson qui est alcoolisée, qui vous, c'est parce que ça nous ça nous, comment dire, ça nous enlève notre acuité spirituelle, d'accord? Et Jésus dit que lorsque le Fils de l'homme sera plus là, alors vous jeûnerez. Il ne s'agit pas de jeûner 365 jours sur 365, parce que vous n'allez pas tenir le choc, mais il s'agit quand même de rester sobre. Soyez sobre, veillez, le diable, votre ennemi, rôde, cherchant qui pourra dévorer. Quand on n'est pas sobre, eh bien plus facilement on se laisse aller à des choses qu'on ne devrait pas faire, ou à dire des choses qu'on ne devrait pas dire. Voyez? Ou avoir des regards qu'on ne devrait pas avoir. Et on laisse une porte ouverte, et puis finalement, c'est ça, le sommeil, c'est ça. Vous voyez? Et tout le temps alourdi par la nourriture, et tout le temps entre deux verres de vin, être tout le temps dans la grivoiserie, et tout le temps, et puis tout le temps avoir des films qu'on ne devrait pas regarder. Au bout d'un moment, vous êtes votre et très rapidement en train d'être sous le flot de la désinformation, de la télévision, écouter les infos, les infos, les infos, c'est une drogue. Vous comprenez? Ce que vous faites, c'est pas difficile. Abstenez-vous pendant une semaine de tout ce qui est excès. Mangez sobrement. Je vous dis pas de jeûner. Vous mangez sobrement, très sobrement. Vous dites, ok, cette semaine, je ne mange pas de viande, je ne fais pas de gros repas, je mange sobre, d'accord? Je mange peu, sobre. Vous voyez, je ne vous demande pas de devenir végétarien, on va en parler tout à l'heure. Pas du tout. Vous pouvez manger. Mais pendant une semaine, vous faites ça. Je ne regarde pas la télévision. Je ne vais pas sur Facebook. Je coupe tout pendant une semaine. Et après, faites l'expérience. Après, regardez la télévision. Mangez. Vous allez avoir un choc. Vous allez avoir un choc. Vous allez voir des choses que vous ne voyez pas. Vous allez comprendre des choses que vous ne compreniez pas. Et pendant cette semaine de mise à part, priez. Prenez des temps de prière. Lisez, nourrissez-vous de la parole de Dieu. Mais au bout d'une semaine, vous retournez à la vie normale, vous allez avoir un choc, un véritable choc. C'est là que vous allez comprendre, ah, on est en train de nous endormir. Je vous promets qu'on est en train de nous endormir. C'est pas la théorie complotiste, c'est la Bible qui nous dit, il est temps de vous réveiller en fin de sommeil. Donc je ne dis pas qu'il faut arrêter de regarder la télévision pendant 365 jours. Mais je dis qu'il faut prendre des temps de sanctification, des temps de mise à part. Et qu'ensuite, il faut ménager, il faut pas ménager, il faut limiter, pardon. Il faut limiter ce que vous ingurgitez, soit du point de vue de l'image, parce qu'on est dans le siècle de l'image, beaucoup plus qu'à l'époque de Paul, soit du point de vue de la nourriture, etc., etc. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on se prépare au retour du Seigneur. Vous voyez? Soyons bibliques pour une fois. Soyons bibliques. Soyons bibliques. Et ensuite, on a vu les excitables et le boisson. Mais ensuite, il dit, sans luxure, ni dérèglement. C'est, vous voyez, il y a trois doublets. Le premier doublet, c'est acceptable boisson. Deuxième doublet, luxure, dérèglement. Troisième doublet, discorde et jalousie. Le deuxième doublet, luxure et dérèglement. Le mot luxure, faut traduire littéralement coucherie. Vous savez ce que c'est une coucherie? C'est coucher à droite et à gauche. D'accord? Donc c'est tout ce qui est en dehors du mariage. Voilà, toute relation sexuelle en dehors du mariage, c'est une coucherie. Donc nous, luxure, c'est pas attendez, c'est pas l'industrie du luxe à Paris. C'est pas ça la luxure. Vous pouvez avoir un sac je sais pas, donnez-moi une marque, je sais pas quoi. Hermès, si vous voulez acheter un sac Hermès, ça m'est bien égal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça qui va vous fermer la porte du ciel. Mais ici, il est parlé de luxure au sens de coucherie. Il faut appeler les choses par leur nom. Et malheureusement, nos traductions n'appellent pas les choses par leur nom. Mais en grec, c'est ça que ça veut dire. Vous voyez? Les jeunes vous disent, oui, mais je vois pas dans la Bible où c'est marqué qu'il faut pas coucher avant le mariage. Si, c'est marqué. Romains 13, verset 13. Ok? C'est facile à se rappeler en plus, 13, 13. Comme ça, vous pouvez pas le louper. Luxure, dérèglement. Dérèglement, ça va dans le sens de tout ce qui est déréglé du point de vue, tout ce qui est immoralité. Vous voyez? Tout ce qui est impudicité, immoralité, tout ce domaine-là. Quand vous sentez qu'il y a un esprit d'impureté, vous savez que c'est mauvais. Ok? Que ce soit par les yeux, que ce soit par la pensée, que ce soit par les actes. Jésus a dit, celui qui regarde un homme, une femme ou un homme, maintenant, il faut dire, on est obligé de comment dire, comment dire, de viser large. Eh bien, il a déjà commis l'adultère dans son cœur. Ça veut dire que le regard, la pensée, c'est bon. Le proverbe dit, celui qui mord ses lèvres, il a déjà commis le péché. Ça veut dire la même chose. Vous voyez ? Ça veut dire qu'il salive déjà. Excusez-moi, mais c'est ce que dit la Bible. Vous comprenez ? Donc ça, c'est un domaine où la Bible est claire. Et Paul dit, attention, si vous êtes dans ce domaine-là, vous n'êtes pas clair, vous êtes dans l'esprit d'impureté, vous n'êtes pas prêt pour le retour du Seigneur. Et c'est ce que Paul appelle les œuvres de ténèbres. C'est des choses qu'on cache. C'est des choses qu'on ne met pas sur la place publique, évidemment. Et si vous les cachez, comme on disait tout à l'heure, c'est bien la preuve qu'il y a un souci. Troisième doublet, c'est discorde, jalousie. C'est tout le domaine, non-pardon, amertume, mauvaise compétition au sens d'ambition, vous voyez, on est prêt à marcher sur sa grand-mère pour atteindre son but, enfin, je prends un exemple un peu, etc. Tout ce qui est cette espèce de discorde, jalousie, envie, amertume, toutes ces choses-là. Alors ça, c'est plus subtil. Parce que celui qui a commis l'adultère, tout de suite, tout le monde va lui tomber dessus en disant « c'est terrible ce que tu as fait ». Mais celui qui est jaloux, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Et pourtant, c'est au même niveau que l'adultère, bibliquement parlant. C'est grave. Il y avait comme ça un pasteur, il y avait une pastorale en Suisse il y a quelques années, j'avais entendu ce témoignage que je trouvais remarquable. Et puis, vous savez, les pasteurs entre eux, ça leur arrive d'être jaloux. Hein. Les pasteurs sont des hommes comme les autres. Si vous aviez un complexe, n'en ayez plus. D'accord ? Eh bien, ou le pasteur avec un E, si vous voulez, parce que maintenant on est pasteur ou pasteure. Non, c'est une blague, excusez-moi. Mais, voilà, je referme la parenthèse. C'était tentant, c'est pour ça que... Voilà. Discorde, jalousie, pourquoi c'est important? Et pendant cette pastorale, il y a un pasteur qui se lève, qui dit, voilà, maintenant il faut que je vous confesse. J'ai été jaloux. Je crois qu'il a même dit de qui il était jaloux dans la salle. Et je te demande pardon, et je ne veux pas garder ça dans mon cœur comme quelque chose de caché. Je confesse, et je m'en repens devant Dieu. Et à partir du moment où lui, il a dit ça, il y a eu d'autres confessions, d'un coup, il y a un esprit de repentance qui est venu sur ses pasteurs. Vous comprenez? Parce qu'il a osé sortir, c'était dans les ténèbres. C'est très facile de cacher la jalousie. Enfin, c'est très facile, je veux dire, vous. C'est pas si facile que ça, mais je veux dire, c'est possible. Vous voyez? À un moment donné, dans vos paroles, ça va ressortir. Hein. On peut pas toujours cacher. Mais je veux dire, vous pouvez véhiculer comme ça, dans votre cœur, de la discorde, de la jalousie, du non-pardon, de l'amertume, et puis extérieurement, faire bonne figure à mauvais jeu, avec le grand sourire, bonjour frère, bonjour sœur, comment ça va, patali, patala, alors que derrière, c'est pour ça que Jésus dit aux pharisiens dans Matthieu 23, vous êtes des sépulcres blanchis, mais quand on regarde à l'intérieur, c'est plein d'ossements et de pourriture, vous voyez, c'est grave comme accusation, mais c'était la réalité, qu'est-ce qu'on devrait... Les sépulcres étaient blanchis à la chaux pour qu'ils soient beaux, pour honorer les prophètes du passé. Mais c'est comme pour dire, attendez, ça c'est l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du cœur? Donc, ces trois niveaux, le côté excès de table, de boisson, on n'aurait pas cru, mais c'est important aux yeux de Dieu. Surtout dans notre civilisation. Et puis ensuite le côté, tout ce qui est impureté dans le domaine sexuel. Et puis troisièmement, tout ce qui est dans le cœur, le domaine. Vous voyez que cette petite liste-là, il y a des listes plus longues de la part de Paul, dans Galates, dans nos textes. Et c'est important d'étudier ces listes de péchés, et puis de prendre plusieurs traductions. Prenez les traductions un peu modernes, qui osent dire les choses telles qu'elles sont, et pas les traductions du début du XXe siècle, où on n'osait pas dire. Vous voyez, il y avait une sorte de pudeur mal placée, je dois dire. Parce que mal placée, pourquoi? Parce que... quelque part, ne pas dire les choses, c'est pas avertir le peuple de Dieu, c'est le laisser dans l'ignorance. Mais revêtez-vous, verset 14, parce qu'il est parlé aussi des armes, pas seulement des œuvres des ténèbres, mais ensuite, les armes de la lumière, c'est quoi? Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'armure du chrétien. Vous voyez? Dans Colossiens, il dit revêtez-vous des compassions de Christ, des entrailles de miséricorde de Dieu. Revêtez-vous d'humilité, ailleurs il est dit. La ceinture de la vérité, vous voyez? La cuirasse de la justice. Tout ça, c'est Jésus-Christ. C'est sa pureté, c'est sa justice, c'est son amour, c'est sa grâce, c'est son caractère. Et vous pouvez vous revêtir du Seigneur Jésus-Christ chaque matin. Et vous dire, Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais tout ce qui me tente. Tu sais que par la chair, j'arriverai jamais à résister pleinement, complètement. Ou alors, parce que j'ai une bonne éducation, j'arriverai à résister aux actes, mais j'arriverai pas à résister aux pensées et aux regards. Donc, je suis pas meilleur que les autres. Donc, la seule solution, au lieu de se battre en direct contre le péché, parce qu'avec avec nos propres efforts, c'est qu'on fait appel au Saint-Esprit. Vous voyez? Et on est renouvelé dans le Saint-Esprit. On parle en langue, on prie, on se revêt du Seigneur Jésus-Christ, on prend du temps dans la prière. Et quand vous êtes bien bouillant pour le Seigneur, fervent, comme c'était marqué dans le chapitre 12, soyez fervent d'esprit, bouillant d'esprit. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on se revêt de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, on n'est plus en train de satisfaire la chair pour en satisfaire les convoitises. Vous comprenez, je veux dire? Voilà la clé. Voilà comment est-ce que la Bible nous appelle à vivre. Ne pas attrister le Saint-Esprit, mais se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À tout à l'heure pour le chapitre 14.